voix. Puis il y avait une phrase qui voulait dire particulièrement quelque chose. Il disait que ton souffle m'anime. Hein? Quand on chante un chant comme ça, on manque de souffle. Il semble que j'avais besoin que le Seigneur anime mon souffle un petit peu. Ce n'est pas le sens de la phrase, évidemment. Mais je trouvais ça quand même pertinent, disons. OK, on peut envoyer le PowerPoint. Cette semaine, j'ai pris quelques minutes pour trouver quelques images de... pour nous faire rire un petit peu. Encore cette semaine, on va regarder les mignons. Je trouve que c'est un thème qui est quand même intéressant. Donc, je vais vous laisser les lire. Hein? Donc, voir une araignée, bon, c'est rien. Hein? C'est quand tu ne la vois plus, par exemple, au palais. C'est grave. Pour ceux qui n'aiment pas les araignées, là, vous comprenez ce que je veux dire. L'école. L'école maintenant. Ouais, on parle plus du passé simple, mais là, peut-être, il va falloir apprendre le futur compliqué dans l'avenir, effectivement. Et alors, ça c'est particulièrement hein, vrai. Ceux qui commencent à vieillir un petit peu, hein, ils disent, hein, tu te réveilles le matin, tu bouges un bras, crac, hein, oups, là, tu descends du lit, tu plies les genoux, crac, là, tu te tournes le cou, ça fait crac. Hein, finalement, ma conclusion, je pense qu'en vieillant, on devient de plus en plus craquant. J'avais trouvé intéressant. Je cherchais cette semaine une histoire pour introduire mon message. Puis il y a une histoire que j'avais déjà racontée le 24 novembre l'année passée. Puis c'est toujours cette histoire-là qui me revenait. Puis je lisais d'autres histoires, mais je ne les trouvais pas aussi pertinentes que celle-là. Donc, je vais vous la ramener à votre mémoire. Peut-être ceux qui étaient là, vous allez vous en rappeler. Je m'en excuse, là, mais je vais prendre la même illustration. C'est une histoire qui s'est passée autour des années 1860. C'était dans une ville du sud des États-Unis. Et il y avait de l'agitation dans la ville parce qu'il y avait une vente aux enchères qui se préparait. Et c'était une vente aux enchères d'un marché d'esclaves. Okay? Donc, parmi les gens de la foule qui étaient présents, il y avait un homme qui était vraiment méchant, qui était reconnu pour maltraiter ses esclaves. Il y avait vraiment l'appât de l'argent, du gain, et c'était vraiment une mauvaise réputation. Mais il y avait aussi dans la foule un autre homme qui était très gentil, qui était bien humain, si on veut, avec, je ne sais pas s'il y avait des esclaves lui-même, en tout cas ses employés, ils étaient très, très gracieux envers eux et tout ça. Et lui était dans la foule. Alors l'encanteur arrive à l'avant et lance le début des enchères et le premier lot, si on veut, qui était mis aux enchères, c'est triste de dire son nom, mais c'était à l'époque, c'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, une belle jeune femme noire, évidemment, c'était le temps de l'esclavage, et elle était vêtue quand même avec une robe vieille, maganée, mais très propre, et donc ils ont commencé des enchères, et tout de suite, l'homme méchant a commencé à enchérir pour acheter le lot, et là, le bonhomme dans la salle, s'est rendu compte à regarder le regard de cette jeune femme terrorisée, parce qu'elle aussi connaissait la réputation de cet homme-là. Et quand il a vu ça, il a commencé à enchérir lui aussi. Et tranquillement, ils ont surenchéri et bientôt sont arrivés seulement ces deux hommes qui surenchérissaient. Mais lorsque l'homme avide de gain s'est rendu compte que le prix était rendu trop élevé à son goût, il a arrêté d'enchérir et l'homme gentil a finalement remporté cette enchère-là. Donc, il est allé payer ce qu'il devait au guichet. On lui a remis un reçu. Et là, il est parti pour s'en aller. Et la jeune femme a commencé à suivre l'homme. Donc, l'homme s'est retourné et dit, « Qu'est-ce que vous faites? » Ben, il dit, « Ben, je vous suis. Vous venez de m'acheter. » Non, il dit, « Tu n'as pas compris. » Il dit, « J'ai enchéri pas pour que tu deviennes mon esclave, pour que tu sois libre. » Il a pris le reçu qu'il venait de recevoir et il a écrit en grosses lettres « libre » et il a signé en bas et lui a remis cette facture-là. Donc la jeune femme a dit « Je ne comprends pas, là. » Elle dit « Vous voulez dire que je suis libre? » « Oui, c'est écrit L-I-B-R-E, vous êtes libre, madame. » Elle dit « Oui, mais là, ça veut dire que je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux. » Oui, madame, vous êtes libre. Elle dit, mais j'en viens pas. J'en viens pas. Elle dit, jamais quelqu'un ne m'a témoigné autant d'amour, autant de gentillesse. Alors, elle dit, si je suis vraiment libre, elle dit, la chose que je préférerais par-dessus tout, monsieur, c'est d'aller avec vous, d'être votre employé, de travailler pour vous, de vous servir jusqu'à ma mort. Alors, cette dame a suivi l'homme, est allée chez lui, non pas comme une esclave, mais comme une employée volontaire par la suite. Et si cette jeune dame n'avait pas fait ça, elle aurait continué à errer librement, hein, en connaissant la méchanceté des êtres humains, à cette époque-là particulièrement, par rapport aux personnes d'autres couleurs, probablement qu'elle se serait faite encore prendre et elle aurait été encore vendue aux enchères plus tard. Donc, en devenant servante, si on veut, ou employée de cet homme-là, elle se plaçait en même temps sous sa protection, sous ses bons soins. Il pouvait prendre soin d'elle et en même temps, elle appartenait, pas officiellement, mais que, selon ce que les gens savaient, à cet homme-là. Donc, elle ne se faisait pas enlever pour être vendue à nouveau comme esclave. Mais, par contre, elle avait suivi comme employée. Qu'est-ce que ça veut dire? En passant, cet homme-là, c'était Abraham Lincoln. Ça semble être une histoire vraie, mais c'était Abraham Lincoln qui, plus tard, est devenu président des États-Unis. Mais, en le suivant, elle a accepté de devenir son employé. Donc, imaginez-vous que M. Lincoln lui demande d'aller arracher les mauvaises herbes dans son jardin. Comment vous pensez qu'elle a répondu à ça? Elle a dit, tu peux bien attendre, hein, si tu penses que je vais commencer à arracher tes mauvaises herbes. Non, elle a suivi de bon cœur, elle a accepté de devenir sa servante de bon cœur, son employé. Donc, si M. Lincoln lui demandait de faire quelque chose, elle le faisait, ça lui faisait plaisir d'être au service de son maître. En même temps, elle avait tout un gain à avoir d'être au service de cet homme-là. Donc, on va revenir tout à l'heure sur cette illustration-là, mais pour le moment, j'aimerais ça que vous tourniez avec moi dans notre texte. On va aller dans Romains chapitre 12. On est rendu dans Romains chapitre 12. Et on va regarder juste le premier verset ensemble ce matin. Donc, Romains 12, 1. Alors, Paul continue son ouvrage en nous disant, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tout un texte qui pourrait être utilisé à bon ou même des fois à mauvais escient. Donc, on va prier le Seigneur que l'Esprit nous dirige dans la compréhension de ce passage-là ce matin. Bien oui, Seigneur, c'est toujours une joie de pouvoir ouvrir ta parole, ouvrir les Écritures, de pouvoir sonder ce que tu as à nous dire. Et particulièrement ce matin, on veut regarder le texte que Paul a écrit dans son épître, au chapitre 12, au verset 1. Et Seigneur, on te demande que ton esprit puisse nous aider à comprendre toute la richesse de ce passage-là, toute l'étendue d'un texte comme celui-là. Et Seigneur Dieu, que ton esprit prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire, nous aide à comprendre et dans ta grâce, utilise-moi, Seigneur. Utilise ma bouche pour communiquer fidèlement ta parole. En Jésus, on te le demande. Amen. Donc, Paul vient de terminer dans les 11 premiers chapitres. Ça a été une grosse année qu'on a eue. On a regardé tout l'exposé de l'Évangile que Paul prêchait. Il est arrivé à l'apogée de sa présentation lorsqu'on l'a vu la semaine passée, au chapitre 11, au verset 33. Là, il y a comme un hymne qui sort de sa bouche et c'est la conclusion de tous ces 11 premiers chapitres. Il dit, « Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrable. Donc, c'est toute une exclamation. Paul est émerveillé devant une telle sagesse que Dieu a pu penser, organiser, synchroniser un tel plan de salut pour tous les êtres humains. Il n'en revient pas. Il n'en revient tout simplement pas. C'est l'exclamation de finalement sa conclusion de tout ce qui vient de nous exposer. Au chapitre 12, Paul entre maintenant dans une nouvelle section, la partie 2, si on veut, de son épître, où il expose maintenant notre réponse à cet évangile. On va donc suivre les implications logiques et normales qu'un chrétien devrait avoir en réponse à une telle grâce. Vous avez remarqué que dans notre texte, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un impératif qui est donné. Paul dit « Je vous exhorte ». Donc, dans d'autres versions, comme la nouvelle Bible Seconde, « Je vous encourage donc ». Dans la Bible Sommaire, « Je vous invite donc ». Donc, Paul n'en fait pas une obligation, mais plutôt une suggestion. Que ça devrait, c'est ce qu'on devrait voir chez ses enfants. Notre réponse, donc, que Paul va élaborer dans les prochains chapitres, représente donc l'effet de l'Évangile sur nos vies. L'Évangile qu'il vient de présenter en détail, cet Évangile qui change totalement la nature d'une personne lorsqu'elle se convertit. Évidemment, répondre favorablement à une telle invitation, ça va être possible seulement dans le contexte des compassions de Dieu. Les compassions de Dieu qui ont été exposées dans les derniers chapitres de la lettre. Donc, si on tente de mettre en pratique les 5 chapitres qui suivent, sans que ce soit le résultat des compassions de Dieu ou de l'Évangile, eh bien, on va simplement en faire une autre religion. Une religion qui continuerait l'ère de la loi et non pas celle de la grâce. Donc, nous sommes ici invités à réagir de la façon appropriée. C'est la réponse de mon cœur. Il doit se produire quelque chose d'authentique, de vrai, qui se passe par l'Évangile de Jésus-Christ dans nos vies, pour qu'on puisse mettre en pratique ce qui s'en vient. Et ce n'est pas seulement de « fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela ». C'est vraiment ce qui s'est passé dans mon cœur va être traduit par ce qu'on va voir dans les prochains chapitres. Comme la jeune femme de l'histoire tout à l'heure, elle voulait rien d'autre que de s'offrir elle-même au service de son bienfaiteur. C'était l'élan de son cœur. Elle dit, si je suis vraiment libre, je peux faire ce que je veux, mais il n'y a rien que je préférerais plus que de vous suivre et de vous servir le reste de ma vie. C'est exactement la même chose au niveau de l'Évangile. Lorsqu'on réalise la grandeur de cet Évangile-là, Seigneur, je ne veux rien d'autre que de te servir maintenant, c'est le désir le plus cher de mon cœur. Maintenant, devant un tel cadeau, devant une telle grâce que Dieu nous a accordée, qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir en retour pour lui montrer ma gratitude? Mais rien de moins que tout. On ne peut pas lui offrir moins que tout. Je dois lui donner tout ce que j'ai. Je dois lui donner tout ce que je fais. Je dois lui donner tout ce que je suis. Parce que Christ nous a rachetés, que nous ne nous appartenons donc plus à nous-mêmes. Il nous a acquis à un grand prix à la croix. Il a payé tout le compte de l'enchère pour me donner ma liberté. Tout a déjà été payé en totalité pour que je sois libre aujourd'hui, que je sois acquitté. Alors, Paul utilise un mot qui est lourd de sens pour l'époque. Il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice ». Mettons-nous dans le contexte, dans une époque où les sacrifices d'animaux étaient encore pratiqués et même, pour certaines religions, des sacrifices humains étaient encore pratiqués. Et là, Paul nous invite ici à nous offrir comme un sacrifice. Mais pourtant, il était clair dans sa présentation, Paul, dans ses 11 premiers chapitres, que le sacrifice de Jésus à la croix était suffisant, qui était final, qu'on n'avait rien à lui y ajouter. Même si on sacrifiait nos propres corps, hein, ça n'ajouterait pas. C'est déjà tout payé. Donc, il s'agit d'un sacrifice de reconnaissance ou un sacrifice d'action de grâce. Et non pas pour payer ce qui manquerait, hein, pour notre liberté. Nous conviendrons ensemble que si Paul adresse une telle exhortation, c'est qu'il est possible qu'un enfant de Dieu ne vive pas cette réalité. Pour plusieurs raisons, dont quelques-unes que nous allons voir dans les prochaines prédications au verset 2. Mais en même temps, on est forcé de constater que bien souvent, quand une personne aujourd'hui, dans les années 2000, au 21e siècle, est conduit au Seigneur, eh bien souvent on néglige de lui présenter ce côté de la Seigneurie de Jésus-Christ, d'offrir son corps en sacrifice à Dieu. Donc oui, les gens veulent bien prendre le cadeau que Dieu leur offre, mais on ne leur présente pas ce côté que normalement, lorsque Christ t'a racheté, ce que tu veux, c'est de t'offrir en entier au Seigneur, de lui consacrer ta vie. Et quand on fait ça, quand on ne leur partage pas ce côté de la Seigneurie de Christ, je pense qu'on est en train de les tromper. On n'est pas honnête avec les gens. Donc, la façon que je vais naturellement réagir à l'Évangile reçu, c'est de me consacrer à Dieu. Ça va se traduire soit par une adoration véritable et une adoration qui est conforme à ses attentes. Il serait donc pertinent de définir c'est quoi l'adoration. C'est quoi l'adoration que je vais rendre à Dieu lorsque justement je suis touché par son esprit. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait regardé un schéma. Je vais monter un schéma de ce qu'est l'Église. Et bon, il y a plein de versets bibliques qui vont avec ça. Mais vous allez remarquer ici, là, le mot adorer, qui sont les six piliers ici de l'Église. Donc ça, c'est la réponse que je vais donner à Dieu par rapport à la réception de cet évangile-là. Et là-dedans, on peut tout inclure. On parle évidemment là, bon, de la prière, de la louange, la fraction du pain, la communion fraternelle, l'enseignement. Là-dedans, on parle aussi de bon, se nourrir de la parole de Dieu, hein, être enseigné à travers ça, la reproduction, la formation de disciples, l'évangélisation, la mission. C'est la façon que on va naturellement, un enfant de Dieu va naturellement rendre à Dieu un culte, donc qui va montrer sa reconnaissance envers Dieu, dans un sens. En même temps, on pourrait se demander, est-ce que Paul est en train de nous inviter à un suicide collectif, hein, de s'offrir en sacrifice? On pourrait avoir l'impression qu'on va tous s'offrir sur le bûcher ensemble, mais heureusement, Paul donne des détails. Hein? C'est quoi ce sacrifice? C'est le sacrifice de nos corps, évidemment, mais un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ouf! On devrait en survivre. On est correct. Okay? Donc, il nous donne les détails. C'est quelle sorte de sacrifice qu'on va offrir. Mais c'est quoi un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? Eh bien, c'est ce que Paul va expliquer dans les versets qui suivent, évidemment. Mais c'est aussi ce que Paul a expliqué dans les 11 premiers chapitres. Et entre autres, lorsqu'il nous mentionnait, chapitre 6, verset 4, hein, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Je pense que Paul est en train de continuer à nous dévoiler c'est quoi marcher en nouveauté de vie, et ici en parlant de ce sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, quand Paul nous parle d'un sacrifice vivant, bien, c'est des thèmes qu'il avait déjà exploités dans ses 11 premiers chapitres. Donc, Romains 11, 17, 4, 17, 6, 4, 6, 13, vous pourriez aller voir, c'est des thèmes qui nous parlaient de sacrifice vivant. Hein? Il nous expliquait comment nous pouvons être vivants par la foi, vivants de mort que nous étions, évidemment. Le terme « saint », c'est la même chose, ou « mis à part », on pourrait dire, des textes comme Romains 1, 7, comme Romains 6, 22, 8, 30, nous parlaient comment on était mis à part pour Dieu. Et, évidemment, agréable à Dieu, quand on regarde tous les textes de Romains 3, comment, sans l'Esprit de Dieu, l'homme naturel ne peut pas être agréable à Dieu, ne peut pas plaire à Dieu, ne peut même pas faire ce que Dieu demande de faire. C'est impossible. Ou dans Romains 8, versets 5 et 8, Paul avait exprimé que si nous ne marchons pas par l'Esprit, on ne peut pas lui être agréable. Donc, même sans avoir étudié les versets qui suivent, on peut déjà avoir une bonne idée, sur la base de ce qui a déjà été dit, de qu'est-ce que ça pourrait représenter, un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alors, quand tu regardes ta vie, quand je regarde ma vie, dans toute sa totalité, là, est-ce que je peux affirmer que ça ressemble à un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? Quand je regarde ma vie là, de haut, je vais juste regarder dans son ensemble, là, est-ce que ma vie a l'air d'un sacrifice que j'ai offert à Dieu? Toute ma vie, toute mon être, tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Tous autant que nous sommes, je pense qu'on doit arriver à l'évidence qu'à quelque part, on a manqué une marche. Hein? On a manqué une marche, qu'on s'est retrouvé en bas, qu'on a manqué ce que Paul est en train de nous inviter à faire ici. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir? Évidemment, Paul est en train de nous inviter à offrir nos corps en sacrifice, donc il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, on peut le faire encore aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire que je devrais devenir contemplatif, être un moine dans un couvent, là, puis juste passer mes journées à contempler, à adorer Dieu? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Un genre qui revient un peu sur terre, effectivement? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu s'attend de nous. Mais il va falloir qu'on regarde les prochains versets pour comprendre ce que ça peut vouloir dire et pouvoir corriger le tir. S'il y a des domaines dans ma vie où que je n'ai pas offert en sacrifice à Dieu, que je puisse corriger le tir et, comme Paul nous le dit, de le faire, de m'offrir, d'offrir mon corps en sacrifice. Mais avec tout ça, il est évident que ça va devoir commencer, que ça va devoir passer par une repentance de ma part. Parce que bien qu'un jour, je me suis converti, et à ma conversion, bon, probablement que ça m'a été présenté, je lui ai donné ma vie. Hein, donne ta vie au complet au Seigneur. Et à ma conversion, probablement la plupart d'entre nous ont fait ça. Oui, Seigneur, je te donne ma vie. Bien, quand on regarde ça, on se dit, finalement, dans les quelques heures qui ont suivi, je pense que je l'ai repris en main. Hein? Ou pour plusieurs, ça a peut-être duré quelques jours, mais ça n'a pas été long que notre vie, on l'a repris en main. Donc oui, on va devoir, à quelque part, passer par une repentance, mais la bonne nouvelle, c'est que pour Dieu, il y a toujours place à la repentance et que Dieu est toujours prêt à nous pardonner, à nous faire grâce à nouveau, à repartir à nouveau avec nous. Donc, ça va être, c'est possible. Et notre texte, pour continuer, il dit que ça va être un culte raisonnable. De faire ça, ça va être un culte raisonnable ou un culte spirituel, logique, rationnel. C'est la juste réaction à avoir devant une grâce si extraordinaire qui nous a été accordée par Dieu. Donc, dans ce contexte, on va avoir toute une panoplie de sujets qu'on va pouvoir aborder dans les prochains mois en rapport avec ce sacrifice vivant. Juste pour vous donner un petit peu une idée, j'ai fait un petit peu un plan des prochaines prédications qui s'en viennent. Il y a un paquet de sujets que j'ai hâte d'aborder avec vous là-dedans, mais on va continuer dans notre série, évidemment, sur Romains. Ça va être comme un peu une parenthèse, mais on rentre vraiment dans le pratico-pratique, là. On va regarder ces thèmes-là ensemble et on va regarder que ce soit le plus pratique possible. Entre autres, on va voir que Dieu m'a préparé, moi, personnellement, pour un ministère particulier dans l'Église. Donc, chacun d'entre nous, Dieu nous a déjà préparés, Dieu nous a déjà équipés pour avoir un rôle particulier à jouer au sein de l'Église locale. C'est un peu comme si on était des pièces qui faisaient partie de ce beau bâtiment-là. Donc, moi, je peux faire partie de cet édifice-là, je suis peut-être un morceau d'une de ces pierres qui forment ces piliers-là de l'Église, ou peut-être même au niveau du leadership de l'Église. Mais j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer au sein de l'Église. Et le texte nous dit finalement qu'on est des morceaux vivants, pas des morceaux morts, des morceaux de pierre inertes, mais on est des morceaux vivants qui forment cet édifice, des sacrifices vivants comme on l'a vu ce matin. Donc, si je ne joue pas mon rôle dans l'Église, l'Église va être hypothéquée par ce manque. Juste vous rappeler, là c'est Paul qui nous adresse ce sujet-là, mais Pierre, et c'est un texte qu'on a étudié, il y a 4 ans, approchez-vous de lui, pierre vivante, hein, j'ai fait vraiment allusion à ce qu'on parle ici, là, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, voyez-vous, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, oups, on regarde dans les mêmes thèmes ici, par Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est vraiment un texte qui est en parallèle et ce n'est pas le même auteur. Pierre a le même langage exactement que Paul a ici. Donc, cette année, j'aimerais ça que pour l'automne 2020 et l'hiver 2021, qu'on regarde ce thème-là ensemble, en tête. L'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario, ma place, mon ministère. On va regarder ça ensemble, plus en détail, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année. Parce qu'on va constater que notre marche chrétienne ne peut se concrétiser en dehors du corps de Christ. Le corps de Christ qui est l'Église locale. Alors, bien qu'en 2019, on a plutôt consacré l'année à regarder la théorie, où il y avait de la pratique quand même à travers ça, mais beaucoup de théorie par rapport à l'Évangile, eh bien, dans les prochains mois, ça va être vraiment plus de la pratique, du pratico-pratique par rapport à cette théorie qu'on a eue. Donc, on va mettre des pattes à ce qu'on a mis dans notre tête, on va regarder comment on peut mettre ça en pratique maintenant. Trop souvent, lorsqu'on je vais juste revenir à mon schéma. Lorsqu'on regarde les églises, puis pas, je ne parle pas juste de l'église de l'Est de l'Ontario, mais une église. Ce qu'on voit plutôt, ça ressemble peut-être plutôt à ça. Lorsqu'on commence à regarder les divers ministères, on se rend compte que parmi ça, il y en a peut-être qui sont tombés. Hein, il y en a peut-être qui ne sont pas à leur place. Ils devraient être ailleurs, mais ils ne sont pas à leur place. Donc, ils jouent un rôle pour lequel ils n'ont pas été formés. D'autres sont tombés, mais finalement, ils ne sont plus dans l'Église aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut, c'est d'analyser peut-être là où on est. Est-ce qu'on est vraiment à la place que Dieu a pour nous? Est-ce qu'on joue bien notre rôle? Donc, ça va être vraiment, ça va être tout un travail. Oui, on va regarder au niveau de l'enseignement des dimanches, mais un de mes objectifs dans cette année, c'est qu'on puisse se rencontrer personnellement, qu'on puisse jaser, regarder, premièrement, s'assurer que vous savez qui vous êtes, que vous savez comment Dieu vous a équipé, qu'est-ce que Dieu a fait de vous pour que vous puissiez trouver la bonne place. La bonne place où vous devriez être, on ne sait pas c'est où, peut-être ça va être ici aussi, mais que vous soyez la place que Dieu a préparée pour vous, hein, en vous faisant de vous cette personne-là. Puis pour ceux qui servent déjà, une chose que j'ai remarquée, j'avais fait un tour un petit peu des personnes lorsqu'on est arrivé, et la plupart des personnes servaient dans un domaine, dans l'Église, mais sans être convaincus qu'ils étaient à la place que Dieu leur demandait d'être présentement. Souvent, ce que j'entendais, c'est, ben là, il y avait un besoin là, fait que je le fais en attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et c'était surprenant comment c'était la façon généralisée de penser des personnes. Donc, un de mes objectifs, en rencontrant les gens, ça va être de m'asseoir avec vous, puis qu'on puisse identifier qui vous êtes, qu'est-ce que Dieu a fait de vous, qu'est-ce que Dieu a fait de Sophie, comment Dieu l'a équipé dans l'Église, et que vous soyez convaincus que là où vous servez, c'est la place que Dieu vous demande d'être présentement. Et que si vous n'êtes pas là, l'Église va être hypothéquée. L'Église va en souffrir parce que vous avez un rôle important à jouer. Donc, oui, à travers les enseignements, donc ça va être important de suivre nos enseignements, mais aussi dans ces rencontres-là, je pense qu'il va y avoir tout un travail de faire. Donc, je pourrais déjà vous demander de commencer à prier là-dessus. Seigneur, montre-moi clairement qu'est-ce que tu as fait de moi, quel don tu m'as donné, comment tu m'as équipé, qu'est-ce que tu m'as fait vivre pour que je puisse servir là où toi, tu m'appelles à servir dans mon Église, l'Église du Seigneur dans laquelle tu m'as appelé. Donc, ça va être notre but pour cette année. Donc, tout un défi, vous ne trouvez pas? Tout un défi devant nous dans l'année qui s'en vient. Alors, on va certainement avoir besoin de la prière. Donc, que vous priez chacun de votre bord, mais qu'on prie ensemble aussi. Que Dieu nous amène là pour remettre de l'ordre. Puis, je ne suis pas en train de faire un portrait de notre Église. Je voulais juste montrer un petit peu de quoi ça pourrait avoir l'air. Mais qu'on puisse remettre vraiment les choses à leur place. Que notre Église puisse être vraiment un édifice où on va pouvoir entrer en sécurité et qu'on n'aura pas peur que ça nous tombe sur la tête à n'importe quel moment. Hein, mais qu'on puisse mettre de bons fondements dans notre Église. Donc, on va tout de suite commencer par prier. Eh bien, oui, Seigneur, premièrement, on veut te remercier. Merci de nous avoir sauvés. Merci de cet évangile extraordinaire, de cette bonne nouvelle, Seigneur. On est émerveillés devant un si grand salut. Seigneur, comment tu as pu penser tous les détails de notre salut? Comment tu as pu accomplir tous les détails de ce plan-là, Seigneur, aussi à la perfection? Il n'y a rien qui manque, Seigneur. Alors, on veut premièrement te dire merci. Te dire combien on est reconnaissant, Seigneur, de nous avoir sauvés, de nous avoir rachetés, de nous avoir libérés. Et Seigneur, en même temps, on veut répondre à un si grand prix que tu as payé. Seigneur, on veut faire rien de moins que s'offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint, agréable devant toi. Seigneur Dieu, certainement, je veux te remettre cette année entre tes mains qui est devant nous, que tu puisses, dans ta grâce, travailler dans nos cœurs, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, de nous montrer, Seigneur, tout ce que tu as fait de nous, tout ce que tu nous as équipés, tout ce que tu nous as permis de vivre pour qu'on puisse jouer le rôle que tu nous appelles à jouer. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse jouer le rôle qu'on a à jouer dans cette Église. Seigneur, glorifie ton nom et certainement, je te demande que ce soit ton esprit qui fasse ce travail-là dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs. Et dans ta grâce, si tu veux m'utiliser pour que je sois un outil entre tes mains pour aider, je te prie de m'utiliser, Seigneur Dieu, gloire à ton nom, et que les événements, tout ce qu'on va vivre ensemble, servent à ça, Seigneur, aussi. C'est en Jésus qu'on veut te le demander. Amen.